Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Vous le savez certainement, ou sans doute l'avez-vous compris, je suis fan de thrillers. Vous savez que je reçois régulièrement les Nicolas Beuglet, les Bernard Minier, et je suis fan. Et là, j'ai découvert un nouvel auteur de thrillers qui, ma foi, je trouve qu'il se débrouille très bien dans la façon de nous faire peur, de nous faire faire des cauchemars. Alors, vous imaginez une journée un petit peu pluvieuse, on va dire aller à mois de novembre, bien que là, nous sommes au mois de mars et tant mieux, le printemps arrive. Il fait pas très beau dehors et puis vous avez un petit peu froid et puis au coin de la cheminée et puis vous attaquez au livre de mon invité d'aujourd'hui. Eh bien, je vous assure que les poils vont se dresser sur votre tête et en tout cas, cette peur en eau profonde ne va pas vous quitter pendant des pages et des pages. Bonjour Olivier Décosse.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour délivrer-vous pour ces deux ailes pour votre ouvrage, je ne vais pas y arriver, Peur en eau profonde aux éditions XO. Alors d'abord, qui est Olivier Décosse?
Qui est Olivier Décosse?
Oui, Décosse. Oui.
Qui je suis? Un avocat qui travaille entre Marseille et Paris.
Oui.
Je suis passionné de plongée.
Oui.
J'écris des thrillers depuis pas mal de temps.
Oui.
J'en suis pas à mon premier, mais c'est la première fois que j'écris sur ce sujet-là.
Oui.
Qui me semblait naturel parce que comme j'habite à Marseille les trois quarts du temps et que je suis très proche de la mer et que j'adore ça, j'avais envie de situer une intrigue qui se passe justement dans l'univers maritime et donc plus précisément sous l'eau, quoi.
Oui. Moi, je me suis dit, Olivier Décosse, il a dû faire un cauchemar. Il a rêvé ce livre et il l'a écrit. Parce que, franchement, c'est quand même assez... Alors, justement, je savais que vous étiez un amateur ou un amoureux de la plongée sous-marine. Et ou alors, il a peut-être rencontré un monstre marin. Bref, il y a quelque chose qui s'est passé, mais nous allons en parler. Alors, nous allons à la rencontre de cette héroïne, hein, qui est Chloé Latour. En fait, je dirais que dans votre ouvrage, il y a trois personnages. Il y a Chloé Latour, il y a Jean Sardy, dont nous allons également parler, et il y a la mer, parce que, bien évidemment, elle prend tout son sens, hein, puisque tout se passe à la mer. Alors, on va découvrir un cadavre. Je laisse le soin aux auditrices, auditeurs de découvrir l'état de ce cadavre, mais je peux vous dire déjà que ça fait froid dans le dos. Moi, ce qui m'a intrigué, et je me suis dit, je suis sûre qu'il a dû se faire aider par des scientifiques de la police, c'est le détail dans le cadavre, dans la dégradation du cadavre. Rassurez-moi, vous vous êtes renseigné, vous avez étudié la chose.
Oui, bien sûr, j'ai étudié la chose. Alors, c'est vrai que dans les thrillers, la scène, entre guillemets, de l'autopsie, c'est pas la première que j'écris.
Oui.
Mais effectivement, celle de l'autopsie d'un noyé, c'était la première fois.
Oui.
Donc, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer d'être le plus précis possible pour savoir comment ça fonctionnait. Bon, des recherches qui sont pas toujours d'ailleurs très digestes quelque part. Hein,
parce
que, bon, on tombe sur des sites qui sont très explicites avec des photos, donc c'est pas toujours terrible. Et ça m'a rappelé d'ailleurs une de mes premières expériences d'autopsie que j'ai vécue en temps réel en quelque sorte, réalité. Lorsque j'étais élève avocat, on nous avait fait assister à une autopsie à l'Institut médico-légal de Paris. Et donc, on était derrière une glace, mais on voyait tout évidemment. Hein. Là, j'ai pris conscience effectivement que c'était un point très important. Parce que à travers une autopsie, on découvre énormément de choses en réalité. Alors bon, il y a plein d'autres moyens que la police scientifique met au service des enquêteurs. Mais lorsqu'il y a mort d'homme, donc crime potentiel, je dis crime potentiel parce que chaque fois qu'on retrouve un cadavre, on ne sait pas forcément, a fortiori si c'est un noyé, si
bien
c'est
sûr.
Pas, mais l'autopsie, voilà, est une phase très très importante. Donc je me suis extrêmement documenté pour pas faire d'erreur, évidemment. Et ensuite, il m'a suffi, avec les connaissances que j'avais déjà, de reproduire ça, et puis surtout de le rendre intelligible, parce que le discours médical est parfois très technique.
Oui.
Donc, il faut garder quelques...
Tout à fait, il faut que ça reste audible.
Important,
bien sûr.
Mais, mais pas non plus tomber dans le reportage. Voilà, c'est ça qui n'est pas toujours évident, quoi.
Alors, donc, Chloé Latour va être, elle est commandant, elle va être à la crime, comme on dit. Voilà, on va parler le langage. Moi, je suis une fan de thrillers et des séries policières et tout ça. Donc, c'est un langage finalement qu'on finit par connaître et que l'on s'approprie, bien évidemment. Elle est commandant, elle va être chargée de l'affaire. Alors, il y a plein de choses, hein. Parler d'un thriller, c'est toujours compliqué parce que faut dire les choses pour donner l'envie, mais faut pas trop en raconter non plus. Donc, j'essaye toujours de tourner, d'être un petit peu filoute et de tourner un petit peu, tourner un petit peu autour des choses. Mais il faut donner l'envie aussi, voilà. Alors, on va aussi découvrir un plancton inconnu dans les eaux, quelque chose que l'on ne connaît pas encore. Ça aussi, ça fait partie du jeu et ça fait partie de l'intrigue. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et assez terrifiant aussi.
Ben oui, donc ça permet de boucler sur l'autopsie, c'est-à-dire que lorsqu'on analyse les poumons du noyé, d'abord la première question qu'on va se poser, c'est effectivement est-ce qu'il est vraiment mort par noyade. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent, on va dire, démontrer la réalité de ce qu'on appelle une mort par submersion.
Hein, oui.
Donc, et là, on analyse aussi, alors c'est pas dans le cas de l'autopsie, puisque le médecin légiste délègue à un autre laboratoire de police scientifique, l'analyse donc des contenus en quelque sorte, c'est très important aussi. Et là, en matière de noyade, on a dans la région, puisque c'est à côté de Toulon, à la Seine-sur-Mer, un institut qui s'appelle l'IFREMER, qui est un institut qui est dédié à la recherche sous-marine. Donc, ils sont très très compétents. Ils aident parfois donc les équipes d'enquêteurs pour les analyses de contenu, de contenu des poumons, hein, d'eau prélevée dans les poumons des noyés. Et là, en l'occurrence, ils découvrent qu'il y a un plancton, effectivement, qui est dans ses poumons, dans cette eau des poumons. Oui. Sauf que ce plancton, il n'y en a pas en Méditerranée.
Et non.
C'est quand même très étonnant.
Et oui.
Parce que c'est juste impossible. Et du coup, l'enquête va prendre un angle et une tournure tout à fait différente.
Oui, parce qu'on va finir par se demander si ce n'est pas une forme de rituel, s'il y a tout un tas de secrets, tout un tas de choses qui vont tourner autour de ça. Donc déjà, quand on parle de rituel, déjà, on pense un peu au côté satanique, un petit peu, voilà, on se pose tout un tas de questions. Et puis c'est vrai que en eau profonde, l'eau a des dizaines de mètres de profondeur. C'est quelque chose d'assez terrifiant parce qu'on quitte le monde du vivant, on va dire, de l'oxygène, de la respiration pour aller dans un monde de silence qui peut paraître un peu terrifiant. Et là, pour en revenir à ce deuxième personnage qui est Jean Sardy, qui est un plongeur professionnel aussi et qui va rentrer en scène et qui va avoir aussi toute son importance dans l'histoire.
Ah, je dirais même plus que toute son importance, il y a deux personnages principaux.
Voilà, c'est tout à l'heure. Chloé Latour et Jean Sardy, tout à fait.
Voilà, Chloé Latour et Jean Sardy, donc qui a une histoire très compliquée, qui a un plongeur professionnel, donc technique.
Oui.
Donc là, c'est important pour nos auditeurs, c'est que il y a deux types de plongée. La plongée loisir, en quelque sorte, où on peut quand même descendre assez profond, hein, jusqu'à 80 mètres, je dirais, qui est un peu la limite symbolique et technique, d'ailleurs, aussi.
Et alors là, est-ce qu'on peut mettre entre parenthèses un petit peu, j'y ai pensé à ce moment-là, et je suis sûre que les auditeurs vont y penser, au Grand Bleu.
Alors, le Grand Bleu, c'est de la plongée en apnée.
D'accord.
Ce qui est encore différent comme système, puisqu'on descend profondément, aussi moins profond, hein, mais quand même profondément, jusqu'à 600 mètres, mais en retenant son souffle. Donc, c'est très particulier.
D'accord.
Et c'est une autre discipline, c'est la plongée en apnée.
Sans bouteille, sans rien.
Sans bouteille, voilà, c'est encore autre chose. Et là, on descend avec des bouteilles. Donc, dans le cadre de la plongée loisir, vous plongez jusqu'à 60, 70 mètres avec de l'air comprimé, en quelque sorte.
Tout à fait, oui.
Vous baladez, vous visitez des épaves, enfin plein de choses, ça je l'ai fait.
Jean Sardy, c'est un chasseur d'épaves aussi, hein, faut le préciser.
Alors, voilà, mais Jean Sardy, sa particularité, si vous voulez, c'est qu'il est plongeur technique.
Oui.
Donc, lui, il a une société, d'ailleurs, de travaux sous-marins.
Oui.
Et il intervient sur des réparations de plateformes pétrolières, sur des câbles sous-marins.
C'est un pro. C'est un pro.
Voilà, c'est un pro. Alors, vous avez des pros dans la plongée loisir. Le moniteur qui va vous emmener faire une promenade, à 10 mètres de fond, c'est un pro. Mais là, c'est des pros plus en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle les scaphandriers en fait.
D'accord.
Et donc, ils sont capables. Je crois que le record du monde de plongée en bouteille scaphandre, alors ce qu'on appelle le scaphandre autonome, comme l'avait baptisé Commandant Cousteau, puisque c'est lui quand même qui l'a inventé, c'est 280 mètres ou un truc comme ça. Donc, imaginez à 280 mètres de profondeur avec juste des bouteilles sur le dos pour respirer.
Non, j'imagine si pas, moi je suis...
Voilà, mais moi je ne l'ai pas fait. même si vous avez un mélange à partir de 80 mètres, on respire plus de l'oxygène compressé, mais on respire un mélange qu'on appelle le trimix, qui est un mélange d'azote, d'hydrogène et d'oxygène.
Ouais.
Et à partir de là, toutes les règles changent. La pression est monstrueuse, je ne vous rappelle plus, mais je crois que dès que vous descendez de 10 mètres, vous avez un bar supplémentaire, enfin, vous avez des tonnes d'eau sur les épaules, vous respirez un gaz complexe, vous avez des palais de décompression, c'est une aventure, c'est comme si vous sortiez dans l'espace. Quoi.
Oui, je vois, d'accord. Oui, rien que vous écoutez, j'ai la respiration qui se coupe. Alors, c'est d'autant plus, votre livre est d'autant plus angoissant que c'est très bien, vous êtes dans le détail. Alors, c'est fluide, c'est très clair, c'est très précis, mais on s'y voit. Je vous dis, moi, en lisant le livre, comme je suis un peu claustro, j'ai déjà fait de la plongée, mais dès que j'avais 6 mètres d'eau au-dessus de ma tête, il fallait que je remonte à la surface parce que j'étais pas bien. Pourtant, Dieu sait si j'aime l'eau. Voilà. Et donc, le troisième personnage, c'est la mer. Alors, en surface toute bleue, Marseille ou Toulon, la Seine-sur-Mer. Et puis, dès qu'on descend, ça devient un monde de silence. Mais dans votre livre, ça devient un monde de silence, mais un monde terrifiant, finalement, de par ce qui se passe et ce que vous le faites, de ce que vous le faites subir, finalement, à la mer. Parce que on a l'impression que, comme c'est un personnage, vous lui faites subir des choses atroces à cause de ce cadavre et des autres cadavres. Il y aura d'autres victimes, on va dire.
Alors, c'est vrai que la mer, déjà, je pense que vous l'avez dit vous-même, vous descendez à 6 mètres et déjà, vous avez un sentiment étrange, quoi, d'étrangeté quelque part. Donc, c'est normal, parce que c'est à la fois le milieu dont on est issu, l'eau, l'océan, la matière, en quelque sorte, qui nous compose à 90 ou 95%. Et en même temps, c'est un milieu totalement étranger, quoi, parce que par définition, on ne respire pas sous l'eau. Et en même temps, la pression n'est pas la même, la portance n'est pas la même, et quand on est dans l'eau, on flotte, quoi. Enfin, sous l'eau, je veux dire, on flotte, et on a l'impression de voler. Donc, dès qu'on pénètre dans la mer ou dans l'océan, on a cette sensation-là, et a fortiori, même si on se baigne, qu'on plonge pas, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de vous baigner au large d'un bateau, et quand vous avez 500 000 mètres de fond en dessous de vous, c'est toujours très, très inquiétant, parce qu'en fait, on ne sait pas. Voilà. Et donc, c'est cet inconnu que moi j'ai trouvé très romanesque quelque part, parce que c'est porteur de tous les fantasmes, de tout ce qu'on peut imaginer, enfin bref, d'un imaginaire énorme. On peut y projeter ce qu'on veut quelque part, et la littérature s'en est pas privée, depuis Jules Verne, ou même d'ailleurs depuis l'Atlantide de Platon aussi,
complètement.
Les blockbusters hollywoodiens ont fait des films extraordinaires que j'ai adoré. Abyss par exemple,
voire même Abyss, j'adore Abyss,
voilà. C'est une référence, on est plus proche d'ailleurs d'Abyss, dans mon roman,
mais oui, j'ai pensé profond, tout à fait,
que du Grand Bleu quelque part, parce que
c'est vrai.
Dans Abyss, c'est vraiment des scaphandriers, quoi. Ils sont sur des plateformes, ils travaillent, voilà. Et du coup, insérer ça dans un univers de thriller où en plus cette mer qui est déjà en quelque pas hostile mais inquiétante, en tout cas, est porteuse de scènes de crime, c'est-à-dire devient la reine de scènes de crime. Là, je trouvais que c'était pour un thriller, en tout cas pour moi, c'était super.
Alors, on va parler un peu de cette héroïne de Chloé Latour, que moi j'ai trouvé. J'espère qu'on la retrouvera, parce que j'ai beaucoup aimé le personnage, ce que vous lui faites vivre, cette respiration que vous lui donnez. C'est quelqu'un de carré, qui aime les choses bien faites. C'est une femme de tête, mais en même temps, il y a cette fragilité. J'enfonce une porte ouverte, ou c'est de la psycho à 3 balles de comptoir. Mais je l'ai trouvée à la fois. Elle a cette force un petit peu fragile, mais très déterminée. Et puis surtout, elle se retrouve face à quelque chose d'assez difficile. Elle se pose beaucoup de questions, et face aussi à Jean Sardy qui pour elle, ça va poser pas mal de problèmes. Donc, on peut pas tout dire, mais j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'espère que ce sera récurrent et qu'on la retrouvera.
Ah ben, je vous le confirme. Ah. Le roman que j'écris en ce moment, il y a deux enquêteurs qui mènent deux enquêtes parallèles et qui vont se rejoindre.
Oui.
Et elle est l'une des deux enquêteurs.
D'accord. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous allons faire une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
À tout de suite.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Olivier Descos pour son dernier ouvrage Peur en eau profonde aux éditions IXO. Alors donc on a parlé de Chloé Latour. Comment vous avez comment est-elle arrivée chez vous? Comment elle a pris forme pour ce livre Chloé Latour?
Franchement, c'est compliqué là comme question, ou plutôt la réponse est assez évanescente en fait dans mon esprit.
Oui.
J'avais une vision en fait, c'est souvent comme ça que je fonctionne d'ailleurs. Mmh. J'ai des images qui me viennent et j'essaye après de, je rame pour les retranscrire de façon scripturale.
Oui.
C'est pas toujours évident, mais à la base ça part de ça. Donc j'avais une vision physique d'elle, mmh. Donc une femme comme ça. Jolie, blonde,
mmh, ouais.
Assez BCBG,
ouais.
Donc en fait avec un décalage entre le milieu dans lequel elle évolue, qui est un milieu, on va dire,
assez raide,
tout quand même,
assez
encore
dur.
Assez machiste, quoi,
oui,
hein.
Oui, ça c'est clair.
Et parfois assez brutal, je dirais,
mmh.
J'ai pas envie de dire vulgaire, mais voilà,
ouais.
Un chat est un
limite.
Chat,
oui,
et dans le jeu de l'action, mmh. On peut avoir des comportements qui sont pas forcément des comportements de qu'on qualifierait de bien élevés, quoi.
Mmh,
voilà.
Mmh.
Et elle vient d'un milieu bourgeois.
Oui.
Enfin bon. Et donc je trouvais que le contraste était intéressant de
oui.
voir comment est-ce qu'elle allait pouvoir s'imposer avec ses handicaps quelque part dans cet univers qui à la base n'était pas du tout fait pour elle.
Mmh. Mais je trouve qu'elle se l'approprie bien cet univers.
J'espère, en tout cas, qu'elle n'y arrive pas trop mal, parce qu'elle
ouais.
est assez opiniâtre.
Ah oui,
quand elle a quelque chose en tête, elle va au bout.
Oui,
et
oui.
puis aussi, malgré tout, sur cette enquête, hein, c'est aussi d'ailleurs le principe, c'est que les personnages, moi je trouve ça intéressant, de les confronter à leur propre histoire.
Oui.
Et l'enquête doit être une espèce de révélateur, quelque part.
Tout à fait.
Ou en tout cas, une espèce de résilience de leur propre histoire, s'ils arrivent au bout, évidemment.
Hein. Mm.
Alors, ça ne veut pas dire que l'enquête répare tout,
mmh.
Mais elle donne déjà des pistes et elle leur permet d'avancer sur leur propre chemin.
Mmh.
Voilà.
Mmh.
Donc dans cette logique-là, c'est évident, Chloé, avec l'histoire qu'elle avait personnelle,
oui.
elle se retrouve confrontée à une enquête qui démarre par la découverte d'un cadavre mmh. de femme.
Et une enquête difficile.
Et son histoire
ça va
avec
être une
femme mmh. la pousse ouais. à mettre dans cette enquête une partie d'elle-même très personnelle que n'aurait peut-être pas fait un autre flic, quoi.
Mmh. Alors, par rapport à Jean Sardy, je me suis posé une question tout de suite, hein, c'est-à-dire dès que le personnage est apparu, que l'enquête, les choses se passent, je me suis dit, Olivier Descos, en tant qu'avocat, je suis sûre qu'il a déjà rencontré ce genre de personnage.
Comme Jean Sardy, non, alors moi...
Enfin, dans l'esprit, vous voyez, dans la tournure d'esprit, dans la difficulté, dans l'opiniâtreté, dans la complexité de l'approche.
Oui, alors c'est vrai. Alors bon, déjà, mais je précise, je fais pas du droit pénal, moi.
Oui.
Hein, je pratique la propriété intellectuelle essentiellement,
oui.
Et le droit des affaires. Donc c'est des domaines
oui.
qui sont beaucoup moins, comment dirais-je, susceptibles d'entraîner des émotions
oui.
quelque part. Hein,
tout à fait.
C'est beaucoup plus technique,
mmh.
voilà.
Mmh.
Mais bon, c'est vrai que même dans ce cas, dans ce type de cadre,
mmh.
on rencontre des gens. Secret, on rencontre des gens qui ont des difficultés, qui veulent pas forcément les évoquer, voilà.
Mmh.
C'est vrai que c'est un poste d'observation, le métier que je pratique,
mmh.
Assez intéressant pour analyser quelque part les émotions, les caractères, les comportements
mmh.
Humains, ça c'est
mmh.
certain.
Mmh. Alors justement, je vous ai posé la question par rapport à Jean Sardy parce que je savais que vous n'étiez pas un avocat pénaliste, mais en même temps je me suis dit il aurait fait un bon avocat pénaliste. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a traversé l'esprit tout au long du livre par rapport à la façon dont vous expliquez les choses. C'est très technique, très carré, très précis. Je pense que tant qu'avocat pénaliste, il faut ce genre de qualité, ce genre de rigueur. Hein.
Alors, je vais faire une réponse en deux temps. réponse d'avocat. Le premier temps de ma réponse, c'est que j'ai commencé ma carrière en faisant du pénal.
Oui, voilà.
Et du pénal d'assises.
Mmh.
Effectivement, c'est pour ça que je suis venu à ce métier-là, d'ailleurs, à la base.
Donc vous voyez, ma réflexion, elle n'est pas... Voilà, je...
Non, non, elle est tout à fait pertinente, votre réflexion. Bon, ceci expliquant cela, peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce type d'histoire. Après, j'ai bifurqué pour différentes raisons qui me concernent, et d'intérêt aussi pour des matières que j'ai pu découvrir par la suite. En revanche, le point commun, je dirais, à tous les avocats qui essayent de faire leur métier le mieux possible, hein, parce
Bien sûr.
Personne n'est parfait, c'est probablement la rigueur et la construction.
Oui, voilà.
Qu'on fasse du pénal ou qu'on fasse de la propriété intellectuelle comme moi, à un moment donné, il y a une réalité, c'est de présenter un dossier carré si on veut qu'il soit compris, entendu, et même si on espère peut-être avoir une chance de le gagner. Donc ça, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, et forcément, ça m'a beaucoup aidé aussi pour construire mes histoires de thriller. Parce que là aussi, on a besoin d'avoir une mécanique de précision.
Bien sûr.
On part d'un point A, on va jusqu'à un point Z, et il n'y a pas d'erreur possible, quoi. Hein, voilà. Donc, les deux activités, quelque part, se complètent bien.
Alors, cette mère hein, qui va nous amener ce premier cadavre et puis d'autres soucis, dirais-je, pour pas dire plus. On sent, alors vous faites de la plongée, on sent que vous l'aimez, c'est-à-dire que ça transpire, hein, vous l'aimez, elle vous intrigue, ça vous attire. Comme vous dites, ça peut faire appel à toutes les fantasmes, à ce côté romanesque quand on nage au large, on ne sait pas ce qu'il y a dessous, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais vous prenez ça à bras le corps et vous en parlez tellement bien, vous en faites un personnage, et surtout elle est humanisée, vous l'humanisez, cette mère.
Oui, franchement, là je vais aller direct au but. C'est vrai, j'adore la mère.
Oui.
Finalement,
ça sent.
J'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence, ma vie jeune adulte. Bon, après, je suis parti, j'ai pas mal bourlingué avant de revenir y vivre. Mais une partie de mes voyages m'a conduit jusqu'à Tahiti. J'ai vécu pendant une dizaine d'années, et où j'ai beaucoup plongé, où je me suis baigné dans des conditions aussi parfois inquiétantes, puisque entre Tahiti et l'île de Tahiti, l'île de Moréa, vous avez une passe et il y a 5000 ou 8000 mètres de fond. Et on se baignait à partir de bateaux, on nageait à cet endroit-là, quoi. Et quand vous avez 5000 ou 8000 mètres de fond sous vous, c'est juste vertigineux.
Voilà. Ah, c'est clair.
La mer, oui, la mer, l'océan, enfin, j'adore ça, quoi. J'adore ça, ça fait partie de moi. Et je veux pas avoir un discours, c'est pas mon discours d'ailleurs, écolo à deux balles en quelque sorte.
Ouais.
Mais oui, c'est vrai que je pense qu'il faut s'en occuper, faut y accorder de l'intérêt, parce que c'est carrément les trois quarts de la planète, quoi. Donc ça passe par là, quoi.
Bien sûr. Comment vous travaillez, Jean Descosse?
Olivier,
pardon, pourquoi je dis Jean? Olivier.
Parce que j'ai un frère qui s'appelle Jean, peut-être.
Non.
Et que le personnage s'appelle Jean Fardy.
Ah, peut-être. C'est peut-être, à mon avis, c'est plutôt ça.
Ça
doit être ça.
Vous êtes très, très perspicace, je crois.
Peut-être. Et puis, j'ai tellement été prise par le livre. C'est vrai que quand je l'ai posé, ça a eu du mal à me quitter. Ça a eu du mal à me quitter. Oui, je vous demandais, comment vous travaillez? Vous commencez tôt le matin? Comment vous installez la chose? Est-ce que vous écrivez au fur et à mesure? Est-ce que vous avez un plan? Comment ça se passe? Moi, j'aime bien savoir la genèse et un peu le chemin réalisé pour l'écriture, surtout d'un thriller. Ça m'intrigue toujours.
Alors, j'ai d'abord une idée de base, évidemment, quoi, avec surtout des personnages que je caractérise le plus possible.
Oui.
Je connais la fin.
D'accord.
De façon très précise.
D'accord.
Voilà, et après, voilà, ça c'est le cadre, et à l'intérieur du cadre, en revanche, je me laisse de la liberté. Donc, les chapitres, je les écris finalement un peu au fur et à mesure, je sais à peu près ce que les chapitres vont contenir.
Oui.
En revanche, je sais pas exactement, à l'intérieur d'un chapitre, comment je vais l'amener. Donc, vraiment, la meilleure image, c'est ça.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a un cadre qu'on définit, mais qu'à l'intérieur de ce cadre, il faut se laisser de la liberté. D'autant plus que si vous vous laissez de la liberté, vous vous surprenez, et donc vous surprenez potentiellement le lecteur, quoi.
D'accord, ok. Est-ce que parfois l'actualité peut vous inspirer dans la démarche, dans l'histoire, dans le thriller, dans la démarche de l'intrigue?
Alors, pas peut-être au sens premier du terme, c'est-à-dire... Genre, je vois que l'actualité porte, par exemple, en ce moment, terriblement, oui, sur la guerre en Ukraine.
Oui.
Pas pour ça que je vais écrire quelque chose qui va être en rapport, oui, avec ça. Mmh. Ou sur le Covid, je ne vais pas écrire un truc avec ça. En revanche, je pense qu'il y a des grands thèmes qui se dégagent de ce qu'on vit, hein, en tant que, oui, société humaine aujourd'hui, mmh, au XXIe siècle.
Mmh.
Et que, même inconsciemment, ces grands thèmes influent, on va dire, si ce n'est forcément le sujet, quoique, par rapport à Peur en eau profonde, je pense quand même que c'est le cas,
oui,
parce que je pense qu'il y a une réelle nécessité à sensibiliser au sens positif du terme les gens à l'existence de la nature au sens large. Hein. D'ailleurs, mm-hmm, le livre que j'ai fait en ce moment, c'est lié à la nature aussi, une autre nature, parce que ça va se passer en haute montagne.
Ah, très bien.
Et c'est important aussi, quoi.
Mm-hmm.
Et donc, en fait, ce qui est pour moi fondamental, c'est vraiment de me laisser quelque part complètement... on va dire guidé, ouais, par ce que je ressens, donc pas de l'actualité au sens premier du terme, mais au sens des grands courants qui traversent, on va dire, la société, hein, en,
oui,
ce moment.
Oui, oui.
Et c'est pas compliqué, c'est pas forcément franco-français d'ailleurs, hein, c'est, mm-hmm, des courants humains, quelque part,
tout
des préoccupations, mm-hmm, qui émergent, différentes selon les époques, selon les siècles, selon, mm-hmm, les périodes.
Mm-hmm.
Et en ce moment, il y a des préoccupations, je pense, qui concernent tout le monde. Alors, plus ou moins consciemment, il y a des gens qui sont dans le militantisme, d'autres qui sont dans l'observation, enfin, mais tout le monde quand même est plus ou moins sensibilisé, conscient de certaines problématiques, et je pense que les écrivains se les approprient,
oui,
et quelque part, bah, les font ressortir dans leur livre d'une façon ou d'une autre.
Tout à fait, c'est la réalité pour pas mal, en tout cas, oui, c'est
bon. Je pense, oui.
En tout cas, c'est un thriller que j'ai adoré. Je suis heureuse d'avoir découvert votre écriture. C'est le premier que vous éditez chez Ixo, mais pas le premier d'une façon générale. Peur en eau profonde. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Je serai heureuse de vous accueillir de nouveau pour le prochain thriller. En tout cas, ne changez rien dans votre écriture. Moi, j'apprécie beaucoup et je suis sûre que ce sera le cas des auditrices et auditeurs. Voilà.
Ben c'est très gentil, merci beaucoup à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, Peur en eau profonde, aux éditions Ixo. Merci Olivier Descos et j'espère à une prochaine fois. Merci.
Merci, à bientôt.
À bientôt. Nous nous retrouvons pour une autre émission. Eh bien, écoutez, je ne sais pas, on verra quel sera le sujet. En tout cas, je vous souhaite une belle lecture, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.